Je suis à l'hôtel Métropole avec Marie Castille, mention charme, je suis habituée maintenant, c'est quand même compliqué. Hein. Bonjour.
Bonjour.
Et vous prenez goût à la Suisse, parce qu'il y a exactement un an et deux mois, vous étiez en Suisse pour Goodman, au même endroit, ainsi qu'au festival d'Helvétie. Vous aimez la Suisse?
Ben bien sûr que j'aime la Suisse.
Et du coup, vous êtes là pour Divertimento, un sujet magnifique de deux sœurs qui vont vraiment exploser en tant que l'une musicienne, l'autre chef d'orchestre. Mais le parcours n'est pas si aisé puisqu'elles viennent de Pantin. Comment vous est arrivé ce sujet et quelle est la genèse de ce film?
Alors déjà, c'est basé sur une histoire vraie qui se passe en 1995. Ça a son importance quand même par rapport à certaines choses qui ont heureusement changé, peut-être certainement aussi grâce à elle. Eh bien, c'est la première fois en fait que je ne produis pas mon film. Et donc que c'est des producteurs qui sont venus me voir en me disant on a un sujet, on pense que ça pourrait t'intéresser par rapport à voilà ta filmographie, au sujet qui t'intéresse. Donc j'ai découvert la vie de Zaya et Fethouma Ziwani et je ne la connaissais pas, je connaissais pas leur orchestre, et donc j'ai trouvé effectivement qu'elles étaient très inspirantes. Donc j'ai voulu les rencontrer, passer du temps avec elles et puis réécrire Divertimento, et parce que je trouve que c'est une histoire qui peut en inspirer beaucoup d'autres.
Marie Castille, quand vous dites réécrire, c'est qu'on vous a proposé un scénario, vous l'avez retravaillé, vous avez mis votre patte. Et puis, donc, la personne qui l'a écrit, c'est Céline Bourreau, c'est ça?
Clara Bourreau.
Ah, Clara, j'ai changé son nom. Et donc, vous avez remis votre patte. Est-ce que vous allez collaborer avec les sœurs pour mettre exactement cette touche d'authenticité qui vous est si chère?
Alors, quand vous dites collaborer, c'est-à-dire que j'ai travaillé comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je passe beaucoup de temps avec les personnes qui sont concernées par le sujet, parce que j'aime aller chercher des ressentis, j'aime aller voir leur personnalité, aller chercher des anecdotes, aller chercher des détails parfois, mais qui ensuite sont dans ma tête. Quand j'écris et ensuite quand je mets en scène, voilà, j'aime avoir tous ces éléments dans la tête pour justement ne pas trahir. Et rester, on va dire, au plus près, en tout cas, de la personnalité et de l'essence des personnages, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est très important. Même si ensuite, eh bien, c'est une fiction et qu'il y a, des choses que je, on va dire, qui sont de l'ordre vraiment purement de la fiction. Mais c'est une fiction qui est toujours, qui ne peut pas trahir les personnages qui ont vécu certaines choses et qui sont et qui sont là et qui vont voir le film à un moment donné, ça serait terrible pour moi s'ils se sentaient trahis.
Marie Castille, mention charme, je rebondis sur vos propos, vous parlez de l'authenticité justement qui est importante, et pour cette authenticité, il fallait des actrices et des acteurs qui ressemblent à ceux du parcours réel de ces deux femmes. Pour les actrices et les acteurs, comment sont-ils apparus? À quel moment? Scénario ou au moment vraiment du casting, après le scénario?
Alors, on va dire que moi, j'aime bien quand j'écris penser déjà, me projeter déjà avec des acteurs ou des actrices, même si parfois, après, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, j'aime bien avoir quand même des interprètes en tête. Et c'est vrai que déjà Oulaya, Amamra, c'est une comédienne que j'avais découverte dans Divine. Elle était rentrée dans mon mental en me disant c'est une actrice avec laquelle j'aimerais travailler. Et donc bien quand l'idée même de Divertimento est arrivée, je me suis dit c'est pour elle. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à Oulaya déjà en réécrivant. Et puis Lina El Arabi, qui joue donc Fethouma Ziwani, je l'ai rencontrée parce que je trouve que c'est une actrice incroyable aussi. Et quand j'ai découvert qu'elle savait jouer du violon, donc qu'elle avait quand même une pratique d'un instrument à cordes, ça m'a encore plus confortée dans l'idée que Lina allait interpréter Fethouma, parce que pour moi c'était capital que tous ceux qui font de la musique dans le film soient vraiment des musiciens. qu'il y ait une crédibilité, parce que étant fille et petite fille de musiciens et de musiciennes, c'est quelque chose en tant que spectatrice qui me dérange toujours quand je vois que l'acteur n'est pas celui qui joue de l'instrument. Mais ça voulait dire quand même que Lina devait faire un énorme travail, parce que le violon et le violoncelle, c'est pas du tout la même chose. Donc elle a été coachée par la vraie Fethou Mazioani pendant plusieurs mois pour apprendre le violoncelle et arriver quand même à ce niveau incroyable, ou en tout cas elle est totalement crédible dans toutes les séquences qu'on a tournées.
Dorénavant, les violonistes et violoncellistes.
Tout à fait.
Et Nils Arestrup.
Et Nils Arestrup, c'était aussi, on va dire, un peu une évidence parce que de son physique,
son côté bourru.
De sa personnalité, en tout cas ce qu'on en connaît, des rôles qu'il a interprétés aussi, où il peut avoir parfois ce côté très, très dur et en même temps ce côté aussi bienveillant et doux. Donc pour moi, par rapport à la personnalité de Sergiu Celibidache, qui l'interprète, il y avait quelque chose aussi d'assez évident.
Et le papa de nombreux enfants, mais de ses jumelles, c'est
Zinedine Soualem, avec qui j'ai déjà tourné dans Le ciel attendra, qui jouait le papa de Noémie Merlan dans le film, et voilà, qui est un acteur. Moi, j'aime beaucoup retravailler quand ça s'est bien passé, et ça se passe souvent très bien.
De vous créer une famille d'acteurs ?
Ah oui, moi, je dis toujours que j'ai ma famille de cinéma, oui.
Et un protagoniste, ou plutôt une protagoniste fondamentale dans le film, c'est la musique. Parlez-nous des choix musicaux.
Alors, les choix musicaux, ils étaient bien sûr très importants parce que je me projette aussi toujours en tant que spectatrice et que je sais bien sûr que tout le monde n'écoute pas de la musique classique. Et donc, il faut des œuvres qui vont, fédérer les gens, qui vont fédérer les spectateurs, où ils vont se sentir emportés par la musique et pas justement... rejeté en disant leur oreille ne supporte pas ou ils accrochent pas, donc par exemple le Boléro de Ravel, pour moi c'était une œuvre indispensable dans le film parce qu'elle est complètement universelle, que moi j'ai encore des souvenirs de films où on ressort avec le Boléro et ça reste, et c'est un vrai plaisir. Et c'est une musique qui est non seulement entraînante, mais enthousiasmante, qui provoque des émotions, mais qui est très fédératrice, je trouve. Après, il y avait des œuvres indispensables par rapport à Divertimento, comme la Bacchanale de Saint-Saëns, parce que c'est on va dire, l'œuvre très symbolique de l'orchestre Divertimento. Donc ça, je savais que la Bacchanale... serait une œuvre majeure du film. Et puis ensuite, j'ai vraiment écouté beaucoup de choses et toujours en me projetant, en étant spectateur et pas forcément un grand...
Mélomane.
Oui, un grand mélomane, ou même peut-être en se disant qu'il n'aime pas la musique classique et arriver à justement, et c'est ce qui se passe souvent, j'ai beaucoup de personnes à la fin des projections qui me disent on n'écoutait pas de la musique classique et puis là, ça nous a donné envie d'en écouter plus. C'est la magie de la musique, c'est universel. D'où qu'on vienne, quel que soit notre milieu, notre culture, la musique classique et toutes les musiques, c'est un lien incroyable entre nous tous et nous toutes. Toutes les œuvres que j'ai choisies, je pensais toujours au public et à comment il pourrait recevoir l'œuvre.
Vous avez mentionné le travail intense qu'a fait justement Lina pour pouvoir être violoncelliste dans le film. Et pour Oulaya, qui est chef d'orchestre, qui fait l'apprentissage avec un professeur assez exigeant.
Oui, Oulaya, pareil, elle a été coachée par la vraie Zaya Ziwani. Voilà, j'avais demandé aux deux jumelles de coacher les deux jumelles du film et d'être là sur toutes les scènes musicales du film pour justement qu'il y ait ne pas laisser passer des choses qui retireraient de la crédibilité par rapport à voilà, même s'il y a une progression nécessaire, alors qu'aujourd'hui Zaya est une grande chef d'orchestre et que Fetouma est une violoncelliste professionnelle, mais il fallait quand même qu'il y ait cette progression par rapport au personnage, puisque le film, dans le film, elles ont 17 ans, donc elles n'étaient pas encore à leur plus haut niveau, mais il y a cette progression dans le film parce que justement elles ne laissent rien, elles s'accrochent et puis qu'elles ont un don, voilà, et que c'est très important aussi de qu'elles ne laissent pas passer ce don.
Vous avez mentionné en début d'entretien, Marie Casti, que c'est 95, 95 pour les Suisses, et donc une époque pas si éloignée, où apparemment les fossés socio-économiques sont encore présents, et on voit que la musique n'est pas accessible à tout le monde à cette époque.
Oui, la musique en tout cas n'était pas accessible dans certains territoires, dans certains quartiers. Et c'est là aussi ce qui m'a beaucoup plu dans le parcours de Zaya et Fetouma, c'est qu'elles voulaient non seulement accomplir leur rêve personnel, devenir violoncelliste, devenir chef d'orchestre, mais aussi transmettre tout ce que la musique leur apportait, pouvoir le transmettre à d'autres qui n'avaient peut-être pas eu la chance ou l'opportunité, comme elles, d'avoir des parents qui écoutaient beaucoup de musique classique, qui les emmenaient voir des concerts.
Qui créaient une chambre à sonore dans l'appartement familial.
dès la grossesse des jumelles, leur maman n'écoutait que des sonates de Beethoven pendant leur grossesse. Donc, pendant sa grossesse, et qu'elles étaient en train de se construire dans le ventre. Donc, voilà, tout le monde n'a pas cette opportunité là, parce que on est d'une culture où la musique classique n'en fait pas partie, ou parfois on ne s'autorise pas. Oulaya Mamra dit souvent dans les avant-premières que quand elle était plus jeune, eh bien elle ne s'autorisait pas à écouter de la musique classique, comme si elle se disait non, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma famille. Et puis donc elle a découvert la musique classique surtout avec le film, et maintenant elle en écoute régulièrement parce que elle a vu l'impact que ça peut avoir, comme toutes les musiques peuvent avoir un impact incroyable, magique sur notre esprit, notre corps, voilà, notre morale. Moi souvent j'écoute de la musique pour
c'est un baume au cœur et aux oreilles.
Ben oui.
Alors dans votre film, Marie Casti, il y a un moment donné où deux univers se rencontrent. Ça serait peut-être moins flagrant aujourd'hui, quoique on voit souvent des films qui décrivent les jeunes avec certains clichés, surtout quand ils viennent des banlieues. Et là, on voit que ces jeunes filles qui viennent de Pantin, qui ont répété souvent au conservatoire de Stein, viennent à Paris. Et elles rentrent à Racine, où là, il y a quand même les privilégiés qui leur lancent des piques quand même brutales.
Oui, c'était effectivement ce qu'elles ont vécu en 95. Alors, aujourd'hui, Racine, le lycée Racine, je pense, n'est plus comme ça. Mais par contre, des a priori que la société peut avoir sur certains quartiers, sur la banlieue, sur la jeunesse de la banlieue, en la mettant dans des côtés négatifs et en se disant que voilà, qu'est-ce qui se passe toujours en banlieue, c'est des choses négatives, de la violence, de les racailles, voilà, alors que moi j'aime montrer que ce soit avec les héritiers et avec Divertimento, que non, il y a beaucoup de talent partout. Et que là, il y en a beaucoup aussi dans des quartiers où peut-être les gens n'y pensent pas, et qu'il faut le mettre en lumière aussi, parce que ça peut donner de la force à d'autres jeunes qui vont se dire, eh bien, si elles y sont arrivées, eh bien on peut y arriver aussi. et se donner confiance. C'est très important qu'ils se donnent confiance en leurs dons, en leurs rêves, voilà, en leur...
Qu'ils croient en leurs capacités.
Exactement, qu'ils y croient. Et souvent, comme dans Les Héritiers, c'était la main d'une prof vers eux qui disait, voilà, j'ai confiance en vous, plus que vous en vous-même. Et qui les a fait arriver à tout ce parcours incroyable. Eh bien là, c'est pareil. Et je pense que c'est important. Encore, peut-être plus aujourd'hui, dans notre société, voilà, qu'on voit que le talent, il n'a pas de nationalité, pas de couleur, pas d'origine, il est chez tout le monde et il faut l'encourager chez tout le monde.
Oui, justement, parce qu'il y a ce terreau musical qui est entretenu dans la famille. Ces deux jumelles, comme les autres frères et sœurs, sont portés par les parents. Mais le professeur n'est pas si facile à aborder, il est quand même très exigeant. Mais en même temps, il y a une pugnacité chez ces deux sœurs, en particulier chez Zaya.
Oui, oui, tout à fait.
Elle ne se laisse pas intimider.
Elle ne se laisse pas intimider, enfin, même si, bien sûr, elle a des doutes, ce qui est normal, surtout quand on a 17 ans. Hein, il y a des moments où on baisse un petit peu les bras. Mais elle a toujours eu cette résilience et voilà, cette force de ne pas lâcher. Quoi. Et ça, c'est un exemple formidable.
Vous avez tourné à Stein, entre autres, à Pantin.
À Pantin, à Paris.
Souci d'authenticité. Et l'importance qu'il y a à travers votre filmographie, c'est toujours la place de la femme. Et ici, je pense que ces deux sœurs vous donnaient vraiment de quoi développer, exacerber votre regard porté sur la place de la femme.
Ben, merci de le remarquer, parce que vous voyez, il y a récemment un documentaire en France sur justement la place des femmes, etc. On m'a pas du tout...
Donnez-moi le nom des producteurs.
Agathe Film.
Ah ben voilà, c'est dommage. Pourtant, ils sont indépendants.
Oui, et donc j'étais vraiment même...
Ah non, ça saute aux yeux.
Apparemment, non seulement la place des femmes, mais aussi la diversité dans mes films, ça a toujours été... mais quelque chose de naturel.
C'est pas... comme Goodman au cinéma d'Helvétie. Enfin, chaque fois, c'est une évidence.
Bien sûr, mais ça n'est pas... Je ne le fais pas par, vous voyez, par opportunisme ou parce que c'est la mode de... je l'ai commencé bien avant parce que c'est en moi. Et récemment, quand j'ai rencontré Ozane Palsy, qui est une grande réalisatrice et qui... J'avais vu son film Rue Cazenègre quand j'étais très jeune et je l'avais vu 13 fois, le film, tellement j'avais adoré ce film, etc. Et je lui ai dit, en fait, je pense que c'est certainement aussi grâce à votre cinéma, à votre film, que c'est rentré en moi et que ça a toujours été là, quoi. Et je pense que c'est ça aussi la culture, c'est quand on est... voilà, on peut être impacté, influencé, se construire avec aussi la vision des autres et ouvrir les yeux sur des univers que forcément on n'aura peut-être pas par sa famille, son univers familial, culturel, et puis on découvre des choses et c'est très important parce que c'est comme ça qu'on se construit aussi. Et je pense que c'est la cinéaste que je suis... Aujourd'hui, elle est aussi, elle s'est construite avec
ses fragments.
Ouais, tout à fait.
Justement, c'est la cinéaste qu'on apprécie, mais malheureusement, on doit bientôt la quitter apparemment. On peut vous souhaiter une excellente avant-première ce soir au Scala, ici à Genève. Par contre, vous avez déjà mentionné en début d'entretien d'autres avant-premières, ainsi que le Festival d'Angoulême. Quelle est la réaction du public? J'imagine qu'il y a beaucoup d'échanges.
Alors, c'est toujours très compliqué de dire que les réactions sont incroyables, parce que bon, les gens peuvent se dire... mais elles sont vraiment... Les gens sont hyper émus, hyper enthousiastes, disent « Oh là là, ça nous fait un bien fou !» Enfin, il y a vraiment des réactions extrêmement... extrêmement enthousiastes, positives. On a l'impression que la musique... et il y a beaucoup de musique dans le film, ça leur donne une énergie dont ils ont besoin en ce moment, peut-être plus que d'habitude. Et voilà, les réactions sont très positives. Oui.
Ce qui est très encourageant pour vous, et ce parcours est très, vraiment inspirant, encourageant pour les jeunes. Ça leur donne vraiment beaucoup d'envie et d'espoir de suivre ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Merci Marie Castille.
Merci à vous.
Et bonne avant-première ce soir.
Merci beaucoup.